On va commencer avec une question pour notre invité, s'il vous plaît. Monsieur ?
Merci, moi c'est Flavien Mfans pour les comptes de Planète Télévision. Docteur, nous avons des compatriotes aujourd'hui qui ont opté bel et bien d'aller étudier en Chine. Vous, votre organisation, votre collaboration avec l'OMS et le gouvernement central, quelles sont les planifications que vous avez planifiées pour nos compatriotes aujourd'hui qui se retrouvent en Chine devant ce virus, mais qui ont opté bien pour aller étudier là-bas?
Ok, merci pour la question. Oui, nous savons qu'il y a des ressortissants congolais en Chine, mais comme je vous ai dit tantôt, le nombre de cas est en train de baisser significativement au niveau de la Chine. Et au niveau de la Chine, des mesures, nous le saluons, des mesures ont été prises pour pouvoir éviter la transmission de la maladie entre les personnes malades et les personnes saines. Nous pensons, en fait, nous, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, nous ne conseillons pas aux pays de faire sortir leurs ressortissants de la Chine. Mais c'est des décisions des pays, certains pays l'ont fait, nous, on le sait, mais nous pensons qu'au niveau de la Chine, les mesures sont prises pour que les gens puissent être protégés contre la maladie. Surtout que, comme je dis, le nombre de cas est en train de baisser. Mais, comme je dis, c'est des décisions souveraines. Mais l'OMS ne conseille pas au pays de faire sortir les ressortissants de la Chine.
Merci. On va retrouver nos collègues à Goma pour une question, s'il vous plaît.
C'est M. Nkito Papi du journal L'eau et le site d'information Écho d'opinion Planète. Ma question se place ici à Goma. Mon colonel, vous avez, dans votre intérêt, tracé le chemin du tourisme qui est en train de faire, je crois, le lieutenant général au niveau de la République démocratique du Congo. Mais quoi, vous avez dit que la brigade est entrée en collision soit à Beni ou à Ituri. Est-ce que la MONUSCO continue toujours de décider de ne pas engager la brigade alors qu'il y a toujours des morts chaque jour? Merci.
Le porte-parole militaire.
Me recevez?
On ne vous entend pas, lieutenant colonel. Bon, désolé, mais on ne vous entend pas. Donc, on va passer à une autre question ici à Kinshasa. Monsieur?
Vous me recevez?
Ah oui, on vous écoute. On vous écoute, lieutenant colonel.
Ok, j'ai dû changer de micro. Alors, je voudrais commencer par rectifier en disant que le lieutenant général Costa Neves, commandant de la force, n'est pas en tourisme, comme l'a dit M. Okito. Il a été installé au quartier général de la force le 28 janvier. Et depuis ce moment, il a entrepris une visite opérationnelle qu'il a conduite dans chacun des secteurs pour prendre connaissance de la réalité du terrain. Parce que, bien entendu, avant de venir sur le théâtre, il a été briefé, il sait de quoi le théâtre est fait, mais il a décidé d'aller voir par lui-même. Alors, son voyage s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance du terrain et il se fait imprégner de la situation sécuritaire. Alors, la MONUSCO, la force de la MONUSCO, travaille toujours, et ce, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Je veux parler des FARDC, je veux parler de la police nationale congolaise. Nous faisons des patrouilles ensemble. Les FARDC nous sollicitent quand il leur arrive de mener des opérations seules et qu'ils se retrouvent à avoir besoin de la force. Ils nous invitent et nous faisons tout ensemble. Alors, je ne sais pas d'où vous tenez que et la force ou bien la brigade d'intervention de la force ne travaille plus. Non, je crois que ce n'est pas correct. Nous travaillons toujours, et je l'ai mentionné, le général commandant la force, il a échangé avec les autorités militaires des FARDC, à qui il a renouvelé la disponibilité de la force à travailler, à planifier les opérations ensemble et à les conduire ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.
Merci. On va rester à Goma tant que la connexion semble fonctionner. Deuxième question à Goma, rapidement, s'il vous plaît.
Oui, je suis Charlie Kassereka pour la VOA Afrique et ma question s'adresse à M. Mathias. Et M. Mathias, certaines de nos sources rapportent un cas de violence sexuelle commis par un casque bleu depuis 2019, un casque bleu guatémaltèque. Et aussi, on voudrait savoir aujourd'hui pourquoi tous les cas et abus de violences sexuelles commis par les staffs des Nations Unies, parlons de la MONUSCO, sont jugés à l'interne et étouffés sans que les cas ne soient jugés par les cours et tribunaux de la RDC.
Monsieur, c'est une question assez large. Sur le cas que vous mentionnez, effectivement, il a été rapporté. Et il a été rapporté de manière extrêmement publique. Vous avez un site internet que vous pouvez consulter, qui est consultable par le public, le grand public, sur tous les cas qui sont en cours et sur toutes les mesures qui sont prises par les Nations Unies. Donc je pense que l'idée qu'il y a quoi que ce soit de caché n'est pas juste. Nous avons développé donc ces instruments, cette base de données, dans un souci de transparence. Nous sommes également, une fois qu'une victime se présente avec une allégation, que cette allégation soit vérifiée ou pas, nous engageons immédiatement un soutien médical, un soutien psychosocial avec nos partenaires pour ces victimes, et nous poussons nos partenaires militaires, si le cas concerne un militaire, à prendre les mesures nécessaires. S'ils ne le font pas, nous menons des enquêtes. Et dans le cadre des personnels civils, nous prenons aussi extrêmement au sérieux les allégations, nous menons des enquêtes et nous prenons des mesures très fortes, disciplinaires très fortes, en cas de manquement aux standards les plus hauts que nous attendons de nos staffs, qu'ils soient militaires, policiers ou civils. Je vais prendre une question ici maintenant. On va du coup aller voir monsieur ici à Kinshasa.
Pour le compte de Element News. Question à notre invité du jour. Sur les réseaux sociaux circule un long texte d'alerte lancé par des médecins africains qui s'étaient réunis au Kenya il y a quelques jours. Ces médecins appellent les Africains à faire attention sur les viandes et autres produits en provenance de l'Asie, notamment de la Chine et des pays qui l'environnent. Ils s'acharnent contre l'Occident sous le prétexte que chaque fois qu'une épidémie surgit à travers le monde, elle finit toujours par atteindre l'Afrique, comme si c'est à dessein que l'Occident s'acharne à déverser des virus sur le continent africain pour y semer la zizanie sur le plan démographique. Qu'en dites-vous?
Ok, merci beaucoup pour la question. Non, je crois que l'OMS l'a dit dès le début de cette épidémie, qu'il est possible que l'épidémie se propage hors de la Chine, dans d'autres pays. Alors, il y a déjà des pays en Europe, en Asie, j'ai parlé des pays africains qui ont déjà le virus. Donc l'épidémie peut se retrouver n'importe où, avec le mouvement des populations. Tous les jours, il y a des gens qui viennent de la Chine pour l'Afrique, pour les pays africains. Parmi eux, il peut y avoir des gens qui sont malades. Donc et puis aussi concernant le premier volet de votre question, concernant les viandes, je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui a été transmise au début de l'animal à l'homme. Donc ce que nous conseillons aussi, c'est d'éviter de manipuler les animaux. Quand on manipule les animaux, il faut laver les mains et il faut cuire la viande avant de la manger. Donc c'est normal qu'il y ait un lien entre les animaux et cette maladie. Donc nous demandons aux gens de se préparer. Je ne veux pas entrer dans les détails des complots, moi je ne sais pas, mais nous savons que, vu l'épidémiologie de cette épidémie, nous pensons que l'épidémie peut se propager dans d'autres pays. Il faut que les pays se préparent, parce qu'on ne sait pas dans quel pays l'épidémie va se propager.
Merci, on va aller à Bukavu, s'il vous plaît. Bukavu.
Je suis Joël Boufolé. Je suis Joël Boufolé du journal Les Souverains Libres. Je voulais savoir qu'en est-il de la situation sécuritaire dans le haut plateau du site Kivu, plus particulier avec le problème des FDLR. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour que les groupes armés soient éliminés dans le site Kivu et qu'on retrouve la paix? Merci.
Merci. On va donner la parole au porte-parole militaire sur cette question, lieutenant-colonel.
Merci, je vous remercie pour la question. C'est vrai que la situation dans le site Kivu est préoccupante et Vous savez, il y a une opération qui a été déclenchée depuis un certain moment par les FARDC contre les groupes armés qui sévissent dans cette région-là. Et je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon test que la MONUSCO est toujours en appui des FARDC, de la police nationale. La MONUSCO, la force de la MONUSCO apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour pouvoir lutter contre ces groupes armés. C'est vrai que ça commence, ça dure, ça perdure, ça ne finit pas du jour au lendemain. Nous sommes en train de travailler à pouvoir éradiquer les différents groupes armés qui sont en train de sévir dans cette zone-là. Ça va prendre le temps, ça prend du temps, mais ça finira par être assumé. Voilà ce que je peux vous dire. C'est la même réponse qu'on vous donne tous les jours. On est en train de faire ce qu'on peut. Je comprends l'impatience des populations parce qu'on ne s'habitue jamais à la souffrance. Mais je crois qu'en dehors de la solution militaire, il convient que les négociations qui sont appuyées par la MONUSCO puissent aboutir également. Parce que la solution militaire n'est pas forcément le dernier recours. La solution militaire, c'est pour pouvoir préparer le terrain et permettre que les négociations puissent aboutir. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci.
Merci beaucoup. On revient ici à Kinshasa. Monsieur.
Merci. Pierre Maï de l'Agence congolaise de presse. Docteur, est-ce que vous ne craignez pas qu'avec toute cette sensibilisation et la propagande autour des différentes épidémies, vous êtes en train de créer une psychose parmi les populations congolaises en particulier et dans le monde en général? Et puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a une enveloppe qui a été arrêtée au niveau de la RTC pour la préparation de toutes ces choses, centre de traitement de Kinkole et tout ça? Merci.
Bon, j'ai demandé à l'OMS d'être présent aujourd'hui pour pouvoir vous parler de ce sujet d'actualité. J'espère que au lieu de participer à une psychose, au contraire, ça permet d'apaiser les craintes et de clarifier les informations. Je laisse le docteur répondre.
Ok, merci. Non, je pense qu'il faut qu'on soit clair avec la population. Nous sommes dans un pays qui fait face à beaucoup d'épidémies. Ça, nous avons l'épidémie d'Ebola qui est là depuis pratiquement 2 ans. Nous avons la rougeole qui est là. Nous avons le choléra, nous avons la polio. Bon, la polio, c'est le virus vaccinal. Nous avons le monkeypox, nous avons la peste bubonique. Il y a beaucoup d'épidémies en RDC. Bon, pour le moment, on n'a pas encore le nouveau coronavirus. Je crois que c'est important que la population puisse savoir, parce que la meilleure manière de lutter contre les épidémies, c'est la prévention. Et si la population n'est pas informée, pour qu'elle puisse se protéger, nous avons passé tout le temps à répondre. Or, pourtant, nous pouvons avoir l'appui des populations, la contribution des populations. On peut prévenir la plupart de ces épidémies. Par exemple, pour le coronavirus, on connaît ce qu'il faut faire. Nous avons formé les acteurs de médias, je crois, en début de semaine, ouais, le lundi, juste pour qu'ils nous aident à diffuser les messages auprès des populations. Il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire pour prévenir cette maladie. Pour le choléra, on connaît ce qu'il faut faire. Il faut de l'eau. Le choléra se transmet par de l'eau sale, par les mains sales. Il faut boire de l'eau potable. Lorsque la population boit de l'eau potable, ils n'ont pas de choléra. Quand ils ont des meilleures conditions d'assainissement, ils n'ont pas le choléra. Pour la rougeole, il faut vacciner les enfants. On a les vaccins, mais on constate que la couverture vaccinale est toujours basse. Donc il faut que les mamans amènent les enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Donc voilà, on sait un peu ce qu'il faut faire, mais je crois que notre rôle, c'est de pouvoir diffuser le message, c'est de pouvoir sensibiliser la population pour qu'elle puisse adhérer à nos programmes de prévention et de lutte contre ces épidémies.
Merci beaucoup. On va prendre une question, monsieur. S'il vous plaît.
J'ai pas bien suivi la deuxième partie de votre question.
Pardon. Est-ce qu'il y a une enveloppe dédiée à une somme d'argent qui a été allouée à la lutte, à la prévention du coronavirus en RDC? C'est ça la question.
Ok, comme je vous ai dit, il y a un plan de réponse qui vient d'être élaboré. Je crois qu'il va être validé par le ministère de la Santé dans les prochains jours. Et c'est quand ce plan, bon, pour le moment, il y a des contributions des partenaires qui permettent au pays de se préparer. Je crois que quand ce plan sera lancé par le ministère, je crois qu'on va essayer de mobiliser les ressources pour cela. Bon, en ce qui concerne une enveloppe, je crois que le ministère de la Santé est mieux placé pour pouvoir savoir s'il y a une enveloppe qui est prévue pour votre télévision.
Très bien. Rapidement, monsieur, comme ça on peut aller à Bounia.
Rapidement. Merci, Mathias, pour le micro. Je m'adresse au docteur. C'est vrai que ma préoccupation a été déjà traduite par deux de mes confrères, dont Marley Lukunga et l'Agence congolaise de presse. Mais toutefois, je veux placer un accent particulier sur les sous-équipements du continent africain. C'est vrai qu'il y a deux cas, en Algérie et en Égypte, mais le continent africain doit-il s'inquiéter du sous-équipement de son continent par rapport à la propagation du coronavirus? Merci.
Ok, merci beaucoup. Oui, vous avez raison. Je crois que la crainte de l'Organisation mondiale de la santé, c'est beaucoup plus en Afrique. Parce que notre système de santé est faible dans la plupart des pays africains. Alors, quand une épidémie comme celle-ci arrive dans un système de santé faible, vous comprenez bien que déjà, pour détecter, ce n'est pas évident, parce qu'il faut détecter à temps. Alors, souvent, on a des difficultés. Vous avez les épidémies qu'on a dans ce pays, que ce soit l'épidémie d'Ebola du Nord qui voit actuellement, vous savez, on a détecté avant un grand retard. Alors, lorsqu'une épidémie est détectée à temps, on essaie de la circonscrire avant qu'elle ne se propage. Mais lorsqu'elle ne se détecte pas à temps, elle a le temps de se propager dans la population et après, ça devient très difficile de la contenir. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est les conditions de prise en charge. On a des problèmes de ressources, que ce soit les ressources humaines. C'est vrai, la RDC a un peu l'avantage par rapport aux autres pays parce qu'avec l'épidémie d'Ebola, il faut quand même dire qu'on a eu à renforcer les capacités de beaucoup de personnel. Mais c'est toujours difficile parce que même quand on a renforcé les capacités des personnels, ces mêmes personnels interviennent dans Ebola, ils interviennent dans la rougeole, dans le choléra, donc ils sont éparpillés dans plusieurs épidémies. Donc ce sera difficile d'avoir des ressources pour une nouvelle épidémie en RDC actuellement. Dans les autres pays africains, c'est un peu le même problème. Tantôt ils sont confrontés aux autres épidémies aussi, tantôt ils n'ont pas suffisamment de ressources bien formées pour pouvoir faire face à ces différentes épidémies. Les ressources matérielles, je crois qu'on a aussi des difficultés à ce niveau. Vous savez, nous sommes des pays un peu pauvres. On n'a pas le luxe d'avoir toutes les ressources matérielles en équipement que les autres pays ont, mais il y a la solidarité internationale, c'est vrai, mais il faut que les pays, les gouvernements eux-mêmes soient suffisamment forts pour pouvoir répondre à ces épidémies. Donc voilà un peu ce que j'ai dit, mais les pays sont en train de se préparer, les pays africains sont en train de se préparer, ils sont à des niveaux de préparation divers. Mais on espère que la plupart des pays vont atteindre des niveaux de préparation acceptables pour pouvoir faire face à une éventuelle, pour pouvoir détecter tout et faire face à une éventuelle épidémie de maladie à coronavirus.
On va aller à Bounia, s'il vous plaît, en Ituri.
Je suis Charlie Omba de la RTS. La signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et les miliciens de la FRPI est prévue pour ce vendredi 28 février, selon nos sources. Alors, je voulais savoir quel est l'apport de la MONUSCO depuis le début de ces processus de paix. Une deuxième préoccupation, ces miliciens sont précantonnés avec leurs dépendants, notamment les enfants. Alors, quel sera l'essor de ces enfants après la signature de ces protocoles, surtout quand on sait que l'une des principales conditions posées par la MONUSCO, c'était la libération de ces enfants. Merci.
Merci beaucoup. Effectivement, cet accord dont la signature est prévue vendredi, pour la MONUSCO, ça représente la meilleure opportunité jamais donnée aux populations du territoire d'Irumu de tourner la page sur plus de 20 années de conflit et d'entrer résolument dans une phase de stabilisation qui les mènera progressivement à la consolidation de la paix et au développement économique et social. Alors les modalités pratiques et les conditions d'intégration au sein des forces de défense et de sécurité résultent de décisions souveraines de l'État que la MONUSCO n'est pas mandatée pour soutenir. En revanche, la MONUSCO a prévu, conformément à son mandat, d'apporter un soutien à la réinsertion communautaire des combattants et de leurs dépendants. La situation des enfants, effectivement, est également centrale et dans ces programmes de réinsertion communautaire, les jeunes à risque aussi bénéficieront d'un appui psychosocial, de formation de métier dans des filières identifiées par les bénéficiaires. Donc il y a un ensemble de programmes de réinsertion communautaire que la MONUSCO va poursuivre aussitôt que l'accord sera dans sa phase de mise en œuvre. Et évidemment, nous souhaitons au processus de paix de l'Ituri une mise en œuvre qui soit rapide au cours de l'année 2020. Le programme sera également accompagné de notre côté d'un volet dialogue démocratique pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés et former les communautés à des mécanismes non violents de résolution des conflits, le tout pour assurer une paix durable dans la province. On revient ici à Kinshasa.
Merci, Albert Omba, Numérica TV. Bon, Monsieur Kina vient de partir, je crois que il y avait une préoccupation au niveau du plateau du Sud Kivu, dans les Minembwe et Mikenge, selon certaines sources, des difficultés qu'éprouvent les ONG humanitaires pour acheminer leur matériel vers les déplacés. Et ils ont mis en cause la MONUSCO qui ne peut pas, selon leur dire, qui ne veut pas faciliter leur déplacement. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Nous sommes tous les jours approchés par des ONG, effectivement, pour transporter de l'assistance parfois dans des régions qui parfois cette assistance ne cible qu'une communauté en tant que bénéficiaire potentiel. Nous n'avons pas les moyens d'acheminer l'assistance humanitaire nous-mêmes. Nous référons les ONG au Bureau de la coordination des affaires humanitaires et nous faisons tout ce qui est possible pour faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire, mais nous ne sommes pas en mesure, en l'occurrence dans le cas que vous avez mentionné, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette demande. Il est en revanche complètement faux que nous ayons demandé de l'argent pour effectuer cette livraison d'assistance humanitaire. Nous ne demandons évidemment pas d'argent aux organisations non gouvernementales, mais il est important de comprendre qu'il y a un organisme de coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui est en charge d'acheminer l'aide et que la MONUSCO ne peut pas tout faire. Monsieur Enviolé, là-bas.
Merci beaucoup. Je m'appelle Gaïs, je suis de la BBC. J'ai deux questions. La première par rapport à l'OMS. Récemment, l'OMS a lancé une alerte disant que il y a des problèmes de fond pour lutter contre Ebola et que comment on dit ça?
Il faut aller rapidement, on va devoir conclure dans 2 minutes.
Ok, la question c'est, est-ce que OMS a pu récolter plus de fonds pour continuer à lutter contre Ebola? Parce qu'apparemment il ne reste que dans une seule zone de santé, mais il n'y a plus suffisamment de fonds. Et la deuxième question c'est par rapport à l'Ituri. À part Irumu, il y a aussi Djougou, où il y a eu beaucoup de faits et de morts ces derniers temps. Est-ce que la MONUSCO pense aussi lancer un processus de dialogue avec les rebelles CODECO, à part les efforts menés avec les chefs des communautés? Merci.
Je vais laisser répondre le docteur et je vous parlerai tout à l'heure.
Ok, merci. Concernant la maladie à virus Ebola, oui, je crois qu'il y a des signes positifs. Depuis 8 jours, je crois qu'on n'a pas eu de cas. Mais ça ne veut pas dire que l'épidémie est terminée. On continue à travailler sur le terrain. Oui, on a fait le dernier plan, qu'on appelle le RCP 4.1, qui couvre la période de janvier à juin 2020. Ouais, ce plan, je crois qu'il a un budget d'environ 84 millions de dollars. Mais pour le moment, on a un gap d'environ 40 millions de dollars et on est en train de mobiliser encore des ressources pour couvrir ce gap. On espère le faire.
Je vais aller très rapidement sur le CODECO, votre question. Mon collègue militaire a expliqué les patrouilles et le renforcement de la présence de la MONUSCO pour tenter de contrer les attaques qui sont menées depuis Djougou contre des villages. Nous soutenons évidemment toute initiative de dialogue communautaire, mais en ce qui concerne les groupes armés qui n'ont aucune revendication politique et qui sont uniquement spécialisés dans le banditisme, nous pensons qu'effectivement une pression militaire et policière doit s'effectuer. Nous soutenons les FRDC et la PNC dans leurs efforts. Merci beaucoup à tous et bonne journée.
Fini mes 10 piles.